Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
C'est la rentrée des classes, classe scolaire et classe sociale. Et pour vous, Louis Chauvel, bonjour. Les deux types de classes sont dans une situation préoccupante. La jeunesse française tout d'abord, qui vous apparaît comme étant une jeunesse en grande partie sacrifiée. Et puis les classes moyennes qui, pour vous, subissent de plus en plus une baisse de cette moyenne. Alors pour la jeunesse, eh bien, cela fait bien longtemps que celle-ci se plaint. Écoutez par exemple ce qu'en disait le chanteur Daniel Balavoine à un certain François Mitterrand.
Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux, et que ça entraîne le terrorisme, la bande à Bader et des choses comme ça. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté, parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions. Voilà, et je vous remercie de m'avoir laissé parler.
Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que cette façon de penser, de réagir, et aussi de s'exprimer, parce qu'en fait Daniel Balavoine s'exprime par l'écrit et par la musique, et droit de citer, puisse être entendue, et donc puisse être comprise. Il le dit à sa manière. Il est responsable de ses paroles, c'est un citoyen, comme un autre, mais typique. Et quand je dis typique, c'est parce qu'il représente, à mon sens, des centaines de milliers de jeunes. Conditions de vie. Où? Dans quelle banlieue? Quel logement? Quel loisir? Entrant dans une société bétonnée, qui se ferme partout devant eux, avec le chômage pour perspective. Je pense que quelqu'un qui sait dire et chanter, c'est-à-dire exprimer sous la forme de l'art, un drame vécu de cette force, devait être entendu lors d'une émission de ce genre.
Oui, alors donc ça c'était la rentrée de 1980, Louis Chauvel. Depuis, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on a laissé tous les propos de François Mitterrand précisément pour faire entendre que les problèmes que nous rencontrons ne sont pas complètement nouveaux?
Oui, on a l'impression qu'il y a une espèce d'histoire très longue qui continue de se déverser sur nous depuis des décennies. 1980, on parle des gens qui ont une petite vingtaine d'années en 1980, ce sont les générations qui sont nées en 1960, au début des années 1960. C'est extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, dans les statistiques d'aujourd'hui, nous voyons que ces anciens jeunes qui avaient 20 ans en 1980 sont des quinquagénaires plus, qui aujourd'hui sont de plus en plus en difficulté dans leur retraite. Ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, chaque nouvelle génération depuis, il y a eu des améliorations et des problèmes liés au cycle économique de la crise, mais à chaque nouvelle crise, la situation a été encore pire que pour la phase, que pour la vague précédente de jeunesse. C'est-à-dire que ce que l'on voit en remontant aux années 80 avec Balavoine et Mitterrand, c'est que le diagnostic est déjà en place, mais la situation empire peu à peu, et c'est ça le nouveau diagnostic. Et ce qui est de nouveau en plus, c'est que aussi bien si François Mitterrand était conscient et appelait à réagir, il n'a rien fait. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a une parfaite continuité historique. C'est-à-dire que le président Hollande est venu à l'Élysée, voilà, 4 ans et demi, avec le message « Nous allons tout changer pour la jeunesse » et rien ne s'est passé. Donc nous avons une espèce de boucle qui se boucle, mais ce n'est pas simplement un cycle. C'est qu'à chaque cycle, on descend encore plus bas. Et c'est ça qui, en termes de spirale du déclassement, nous emmène de plus en plus loin en bas.
Mais alors, si ça va mal pour les quinquas, pour ceux qui sont quinquagénaires aujourd'hui, pour qui ça va bien? Qui sont ceux qui ont l'âge d'aller bien, d'avoir en quelque sorte un patrimoine, des revenus, même si ce sont des revenus liés à leur retraite, qui vous paraissent satisfaisants, Louis Chauvel?
Quand on compare l'ensemble des classes d'âge les unes par rapport aux autres, et plus encore depuis la crise de 2008, ce que l'on constate, c'est que toutes les classes d'âge ont cédé du terrain, à l'exception des jeunes retraités, 65 à 75 ans. Nous sommes là sur la crête d'une vague, elle, positive du cycle haut de la croissance économique. Ce sont des moyennes, les moyennes sont trompeuses, vous trouverez toujours des retraités avec des toutes petites retraites, mais les grandes masses tellurique, tectonique de la dynamique de la dérive des continents, des générations sociales, ce sont effectivement les gens qui ont presque 70 ans aujourd'hui, qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu du changement social depuis les années 60 et qui se trouvent systématiquement sur la phase haute du développement. Les premiers nés du baby boom, ceux nés aux alentours de 1948, 5 ans avant, 5 ans après, ont été les grands gagnants des transformations sociales d'aujourd'hui. On commence peut-être par la fin du diagnostic, mais c'est là quelque chose de dur et qui s'est encore endurci au cours des 5 dernières années.
Aujourd'hui, vous publiez La spirale du déclassement, un essai sur la société des illusions aux éditions du Seuil, Louis Chauvel, un livre qui va peser dans la campagne puisque votre diagnostic sur la société française est plutôt sombre. Alors, on va commencer par un certain nombre de définitions. Vous évoquez les classes moyennes, vous dites que celles-ci sont en quelque sorte de plus en plus moyennes. Qu'est-ce que c'est qu'une classe moyenne aujourd'hui en France? À partir de quand peut-on considérer qu'on y appartient?
On va certainement pas sortir tous les petits chiffres du livre, il y en a beaucoup. Disons que ce travail est un travail qui est à la fois un travail quasiment de philosophie sociale et politique, mais c'est avant tout un travail de sciences sociales avec des datas, du chiffre, des
données. Moi j'ai retenu quelques chiffres. J'ai retenu par exemple l'idée selon laquelle on appartenait à la classe moyenne intermédiaire lorsque par unité de consommation, autrement dit par foyer, on gagnait aux environs de 3000 euros net par mois, c'est ça?
C'est ça.
Donc ça c'est un chiffre
en fait,
qui m'a...
Enfin, disons que la classe moyenne, elle se définit d'une part par son centre et d'autre part par sa périphérie. On est vraiment avec Blaise Pascal, sur les classes moyennes, le centre est partout et la périphérie nulle part. On ne va pas faire de la philosophie tout de suite, mais le point central, c'est qu'en fait, pour comprendre ce qui se passe, il faut réaliser une cartographie des éléments centraux de la pyramide sociale contemporaine, et les classes moyennes sont multiples. C'est-à-dire, vous avez les classes moyennes inférieures, vous avez les classes moyennes supérieures. La haute fonction publique se trouve juste au-dessus des classes moyennes supérieures. Les médecins spécialistes, ce sont les élites. En dessous, les postiers, ce sont les classes moyennes inférieures. Les instituteurs, les assistantes sociales, les assistants sociaux, l'ensemble de ce groupe situé au niveau de un petit peu moins de 2000 euros par mois de salaire pour un individu. Et ensuite, dans un ménage, vous voyez comment les salaires, les revenus peuvent se... On est là vraiment à l'épicentre du milieu des classes moyennes. Et en fait, le résultat général, c'est que quand on réalise la cartographie de ce groupe-là, le centre tend à se vider. Le bas se décale progressivement vers des situations de plus en plus inconfortables qui étaient jusqu'à présent celles des classes populaires en situation de difficulté. Pour l'instant, le haut se porte bien, mais on est véritablement dans le concept du morceau de sucre dans la tasse de café. C'est-à-dire que le haut des classes moyennes, ça va encore bien, mais la situation est tellement en délitescence pour le reste de la structure sociale que pour l'instant tout va bien est un message de difficulté future.
Alors je précise que ce que vous appelez le haut des classes moyennes, ce sont finalement des foyers qui gagnent donc en cumulé plus de 5000 euros net par mois. Et lorsqu'on vous lit, Louis Chauvel, lorsqu'on lit La spirale du déclassement, qu'on voit donc ces classes moyennes qui gagnent, je le rappelle, 3000 euros net par mois par foyer, on se dit qu'aujourd'hui, 3000 euros net par foyer, ça n'est pas peut-être suffisant pour vivre largement. Votre point de vue là-dessus?
Mon point de vue là-dessus est toujours un point de vue complexe. On fait de la sociologie, c'est pas... Le même revenu, que vous soyez à Brest ou à Paris, correspond à une position relative dans la structure sociale locale complètement différente. C'est-à-dire que chaque fois qu'on discute sur les classes moyennes, la première critique de toute personne qui vient, c'est bon, c'est un point de vue de Parisien. Tout ça, ça se passe à l'intérieur du périphérique. Non. La réalité, c'est qu'en fait, si au lieu de se centrer sur des définitions par frontières de classe moyenne, on analyse le je suis désolé de l'anglicisme, le mapping des classes moyennes,
la carte.
Cartographie de l'ensemble des éléments constitutifs des classes moyennes, on voit bien que ceux qui étaient en situation très confortable dans les années 80, du point de vue du logement, du point de vue de la consommation, du pouvoir d'achat, du départ en vacances, au ski annuel et tout ce que l'on peut lister comme éléments, se trouvent, ceux qui étaient très en situation de très fort, de très grand confort, sont progressivement plus en difficulté, et ceux pour qui la situation, le statut de participation à la classe moyenne, au travers de la consommation, était juste à la limite, se trouvent sous la tête sous l'eau, et nous sommes dans une situation de déclassement progressif d'une masse d'individus se trouvant dans les situations inférieures des classes moyennes, qui se trouvent de plus en plus préoccupantes, et les gens en sont conscients. Ce qui est neuf au cours des 5 dernières années, c'est la conscience croissante du phénomène.
Justement, on écoute un membre de ces classes moyennes.
Quand je vois l'évolution qui s'est passée en 30 ans, je me demande ce qui va se passer dans les 30 prochaines années. Et je pense pas que les enfants seront... Je crois pas qu'ils vont être heureux. Je crois pas. Ou alors il faudra que le monde change. Mais j'y crois pas. Moi ça me fait quelque chose de voir des enfants maintenant, les enfants qui naissent, je me demande ce qu'ils vont devenir. Même nous, on en a, on va dire, vulgairement on en a chié, mais on a été heureux. Tout compte fait, on a suivi une évolution à mon temps. Eux, je sais pas si ça va être à mon temps qu'ils vont suivre. Je sais pas si l'évolution va aller dans ce sens-là.
C'est un extrait du documentaire « Classe moyenne, un rêve français » réalisé par Bertrand Delay, qui avait été diffusé le 21 octobre dernier sur France 2. Ce monsieur, il a peur de l'avenir, et il a notamment peur de l'avenir pour ses enfants. A-t-il raison d'avoir peur, Louis Chauvel ?
Je dirais qu'il a effectivement raison, parfaitement raison d'avoir ce diagnostic-là, parce qu'effectivement, quand... En tant que sociologue, avec une masse de data et en étant branché de données et en étant branché sur l'ensemble des bases dont on peut voilà, ce diagnostic senti par le témoin est quelque chose qui se généralise, qui se systématise quand on travaille à la Durkheim avec des faits sociaux que l'on traite comme des choses. On voit qu'effectivement cette subjectivité correspond à une lecture objective d'une réalité qui se cristallise aujourd'hui. Là, on parle d'un senior qui regarde ses enfants et qui analyse leur dynamique. Il voit bien que, avec 3 années de diplôme, 3 années d'études en plus, que lui-même, ses enfants parviendront au mieux, en moyenne, à la même place. Et c'est une réalité qui est tangible pour tout le monde. Les seniors se saignent aux quatre veines pour offrir de plus en plus d'études à leurs enfants, et la réalité est qu'une partie immense de ces 3 années d'études en plus en une génération sont passées dans l'inflation scolaire, avec une difficulté croissante à se placer dans le monde du travail dans des conditions correctes.
Alors effectivement, lorsque vous parlez des inquiétudes vis-à-vis de l'avenir et des évolutions, il y a énormément de chiffres dans votre livre, Louis Chauvel, puisqu'il s'agit de tracer les choses de manière précise. Alors vous donnez par exemple un chiffre qui est à mon avis assez éclairant. Vous dites qu'en 1970, l'écart entre le salaire des professions intermédiaires et des ouvriers était de 2,2. Il est aujourd'hui passé à 1,4, ce qui veut dire que les professions intermédiaires, de manière relative par rapport au salaire des ouvriers, donc, ont vu cet écart se restreindre. Mais alors, on se dit, est-ce que c'est le niveau de vie des ouvriers qui a augmenté pendant cette période, ou bien est-ce que c'est le niveau des classes moyennes qui, lui, s'est détérioré ?
En fait, ce qui s'est passé, si on se figure un élastique, ce qui s'est passé, c'est que depuis le début des années 70 jusqu'au milieu des années 80, cette espèce d'élastique des inégalités, vous avez le haut, le bas, ça figure les inégalités, cet élastique, on l'a compressé de telle sorte qu'au bout du compte, les professions intermédiaires, l'idéal type en quelque sorte des classes moyennes et la classe ouvrière, se sont resserrés en termes de considérablement en termes de niveau de vie. Ce qui s'est passé en plus, c'est la stagnation longue. C'est-à-dire que cette égalité croissante qui fait que les classes moyennes sont de plus en plus proches du peuple, c'est accompagné d'une réduction des perspectives de croissance c'est même une réduction du niveau de vie pour les classes moyennes, intermédiaires que l'on repère dans, dans le bouquin, qui fait qu'en fait, vous avez une structure propice aux frustrations qui sont extraordinaires. L'un des outils les plus performants de la sociologie, c'est celui de la frustration relative. Ça remonte à Robert Merton et on en trouve des éléments chez Émile Durkheim.
Merton est un grand sociologue américain de l'école de Chicago. Il faut expliquer ce qu'est la frustration relative.
À Columbia University, à New York City, où j'ai moi-même été invité, Merton a été le dieu pendant 40 ans de la situation. La frustration relative, c'est le fait que si vous voulez vraiment énerver quelqu'un, ou un groupe social, ou une nation au complet, vous faites de très grandes promesses, vous montez les aspirations le plus haut possible, vous allez dire, par exemple, les classes moyennes sont heureuses, c'est l'identité qui va bien, et nous allons vers le haut. Donc vous créez des aspirations qui montent, et la réalité sociale, vous avez telles qu'elles sont aujourd'hui, au mieux, elle stagne et en réalité, elle décline de tout un ensemble de points de vue. Cet écart entre les aspirations qui montent et les possibilités réelles de réalisation, cet écart, je suis désolé, ce gap, produit systématiquement dans une société une frustration collective qui peut à l'échelon individuel donner du suicide, qui peut à l'échelon collectif donner, on y reviendra très certainement, des tensions révolutionnaires, une frustration politique qui peut dégénérer en violence, et cette violence peut être de nombreuses natures, révolutionnaires ou, qui sait, terroristes.
Alors, ce qui est important dans ce que vous venez de dire, Louis Chauvel, dans ce processus de frustration relative, c'est qu'en fait, il explique, et c'est à mon avis très clair dans votre livre « La spirale du déclassement », il explique qu'une situation peut s'améliorer, c'est-à-dire que finalement, le patrimoine des individus peut croître, ils peuvent avoir de plus en plus de richesses, de biens, et dans le même temps, être de moins en moins heureux parce qu'ils se comparent aux autres. Et ça, c'est un nœud en quelque sorte explicatif. Les individus ne sont pas seulement liés à une existence, ils sont liés à d'autres personnes, ils se comparent et ils voient finalement que d'autres s'enrichissent plus vite, d'où cette perception de grande frustration et d'inégalité que l'on peut avoir dans notre société aujourd'hui.
Les sources de frustration sont vraiment multiples. C'est-à-dire que dès que vous vous trouvez, même au niveau, au sommet de la pyramide du pouvoir socio-économique, c'est ainsi que j'analyse les transformations sociales dans le premier chapitre, même au sommet, vous trouverez toujours quelqu'un qui se trouve au-dessus de vous. Les sources de frustration sont énormes. Mais en même temps, ce qui s'est passé en plus dans la société française, c'est qu'après les 30 Glorieuses, à la fin des 30 Glorieuses, on a expliqué à l'ensemble de la population que tout continuait de s'améliorer. Le patrimoine, l'éducation, l'accès à la consommation, au ski en hiver.
Mais parce que c'était vrai sur le plan statistique.
C'était vrai en moyenne quand on confond toutes les générations ensemble. Et c'est faux lorsque l'on collapse par génération. Excusez-moi, une
collapse,
fois encore,
je vais traduire lorsque on essaye de distinguer, parce qu'en fait, votre travail.
Vous allez me haïr en termes d'anglicisme horrible, mais je vis vraiment sur la frontière entre différents mondes. Voilà, mon beau-père à l'Académie française va me tordre le cou la prochaine fois que je le rencontre. Mais la situation dans laquelle nous trouvons, c'est que.
C'est que poursuivez votre phrase et nous en terminerons là pour la première partie de cet entretien.
L'écart extraordinaire que nous vivons aujourd'hui, c'est que nous continuons de croire que nous vivons dans une société d'abondance croissante, rapide, et on a l'impression dans les statistiques, mais quand on regarde de près les statistiques et qu'on regarde les écarts entre générations, les nouvelles générations nées après les années 1960 passent à côté de cette espèce de train qui part devant eux.
Voilà, c'est exactement ce que vous avez fait dans ce travail, c'est-à-dire vous avez distingué dans la masse des statistiques des cohortes, autrement dit des groupes de population qui, eux, n'ont pas du tout connu l'embellie économique qu'on leur promettait.